Long d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui au cœur de l'Himalaya, un pays oublié, le Bhoutan. Entrer au Bhoutan, ce n'est pas seulement entrer dans un monde complexe, c'est aussi pénétrer dans le passé. Margaret Williamson, 1933. D'histoire. Aussi petit que la Suisse et moins peuplé que les 20 arrondissements de Paris, à peine sorti du Moyen-Âge, le minuscule royaume du Bhoutan est un pays dont on ne parle jamais. Caché quelque part sur les pentes de l'Himalaya, entre des sommets de plus de 7000 mètres et une forêt tropicale, cerné par les deux pays les plus peuplés du monde, le Bhoutan a réussi la prouesse de conserver malgré tout son indépendance, ses traditions et la beauté de ses paysages qui ont toujours fasciné les rares voyageurs qui s'y rendent.
Le Bhoutan est un pays qui se mérite. Et donc lorsque nous sommes arrivés au pied de ce sommet...
Qui s'appelle, mon ami ?
Le Kanglagachu, qui est une montagne qui fait à peu près 6000 mètres, hein, Kanglagachu, qui était donc un sommet invaincu. En fait, dans l'expédition... Tout le monde était peu à peu empreint de cet état d'esprit, de cette douceur bhoutanaise, de cette harmonie avec le monde. Nous avions décidé que nous n'irions pas jusqu'au sommet, que nous respecterions la cime, car en fait c'était le monde des dieux, le monde des divinités qui n'était pas le nôtre. Et en fait, lorsque nous sommes arrivés proches de cette cime, à quelques mètres, eh bien, nous avions déployé une bannière de prière comme offrande aux divinités de ces sommets et aux hommes de ces vallées.
Françoise Pomaret, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous qui connaissez le Bhoutan, je crois que vous y vivez depuis 25 ans à peu près, en tout cas régulièrement, vous qui venez de lui consacrer un livre, est-ce que vous diriez la même chose que l'alpiniste que l'on vient d'entendre, le Bhoutan est un pays qui se mérite?
Oui, je crois. Le Bhoutan est un pays qui se mérite parce que d'abord c'est un pays dont on ne parle pas, donc déjà il faut le découvrir. Et puis aussi, il y a une géographie extrêmement difficile dans lequel il faut pour rentrer. Et puis aussi, c'est un pays qui n'a pas les mêmes... On ne travaille pas et on ne vit pas au Bhoutan sur les mêmes critères que les critères occidentaux. C'est un autre état d'esprit. Et ce qui est tout à fait frappant au Bhoutan, c'est justement ce manque d'agressivité qui existe dans la société.
On ne parle pas du Bhoutan, dites-vous, mais pour en parler, encore faut-il qu'on sache exactement où ça se trouve, parce que c'est tout petit, c'est perdu en fait en plein milieu de l'Himalaya.
Oui, c'est sur le flanc sud de l'Himalaya, donc nous partons de 100 mètres, nous arrivons à 7000 mètres en gros, et nous sommes, le Bhoutan est coincé entre l'Inde et la Chine, comme vous avez dit, les deux grandes, les pays qui ont le plus de population au monde.
C'est une terre de contraste, quand on vous lit, c'est quand même assez saisissant de savoir que sur une largeur d'environ 150 kilomètres, on passe de 100 à plus de 7000 mètres et d'une forêt tropicale qui est en bas, au sud du Bhoutan, tout près de l'Inde, au plus haut sommet du monde, ou à quelques-uns des plus hauts sommets du monde.
Oui, c'est justement l'un des aspects les plus extraordinaires du Bhoutan qui lui a permis à la fois de survivre, mais aussi de développer ou de conserver des flores extraordinaires et une écologie extraordinaire.
Quand on dit forêt tropicale, bon, c'est vrai que c'est à la hauteur de l'équateur à peu près, non?
C'est le tropique.
C'est le tropique. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une végétation inouïe. C'est fabuleux ce passage, parce que j'évoquais la taille de la Suisse. On n'imagine pas en Suisse une forêt tropicale en bas dans les vallées et puis des sommets de plus de 7000 mètres. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, si bien que ça pose évidemment des problèmes pour se déplacer. Au Bhoutan, si j'ai bien compris, on ne se déplace pas d'est en ouest ou du nord au sud, mais de haut en bas.
Tati Jodi, où allez-vous? Tati Jodi, où allez-vous? Ça, c'est le salut traditionnel. Parce que quand on marchait sur les routes ou sur les chemins de montagne et on se rencontrait. Et on ne disait pas bonjour, on disait Tati Jodi, où allez-vous? Et on répondait Naama Jodi, je vais en bas. Naaya Jodi, je vais en haut. C'est en fait une forme tout à fait stéréotypée de réponse, mais qui correspond parfaitement à la géographie du pays, puisqu'on passe son temps au Bhoutan, soit à monter, soit à descendre.
souvenez-vous, alors, Françoise Pomaret, il y a 11 ans, je crois, dans l'émission L'échappée belle d'Evelyne Gaillou, de haut en bas, de bas en haut, c'est assez curieux quand même.
Oui, c'est une. Cela prouve bien la géographie du pays, où l'on ne conçoit pas ni le plat, ni droite, ni gauche, mais toujours en haut, en bas. Et lorsqu'on se dit bonjour, on ne dit pas bonjour, mais est-ce que tu vas en haut, même si c'est un pléonasme.
Mais alors, ce qu'il y a de difficile quand même, ça pose de sérieux problèmes de communication, qui d'ailleurs ont été résolus assez tard, c'est que, si j'ai bien compris, toutes les chaînes de montagnes vont du nord au sud, si bien que pour se déplacer d'est en ouest, on passe des cols invraisemblables. Ça pose de sérieux problèmes de communication interne.
Alors, il y a eu des problèmes de communication interne jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que la route, ce qu'on appelle la route du centre, soit construite. C'est-à-dire que chaque vallée était pratiquement indépendante et les langues, par exemple, y ont subsisté de façon tout à fait indépendante.
Alors, ça, c'est les communications internes. D'autre part, dans les échanges avec Serge, j'ai appris une chose étonnante aussi en vous lisant, c'est qu'il était plus facile d'arriver au Bhoutan par le nord, c'est-à-dire par les montagnes, par le Tibet, les montagnes sont à 7000 mètres, que par le sud, c'est-à-dire par la forêt.
Oui. Alors d'abord, les montagnes ne sont pas à 7000 mètres. Celles qu'on traverse pour aller au Tibet, bien sûr, elles sont à 7000 mètres. Mais il y a des cols qui sont à 4003, 4004. Et d'aller des vallées centrales du Bhoutan jusqu'au Tibet, c'est relativement facile. Vous mettez 2 jours, disons, à pied. Pour aller dans le sud, il faut traverser des forêts tropicales pleines de petits insectes et de petites bestioles genre sangsues et autres joyeusetés animalières. Et là, c'est vraiment très très pénible. Et en plus, vous avez toutes les maladies comme le paludisme. Donc c'était beaucoup plus difficile et il fallait 7 jours pour aller en Inde.
Alors ça explique peut-être les relations très anciennes qui existent entre le Tibet et le Bhoutan. D'ailleurs, je crois que les populations d'origine du Bhoutan, les premières populations étaient tibétaines en fait.
Alors, beaucoup de populations du Bhoutan sont en effet venues du Tibet. À quelle époque ? Probablement déjà à une époque proto-historique et ensuite à une époque historique, c'est-à-dire vers le 8e siècle. Oui, il y a eu des migrations constantes.
Et un commerce aussi très actif par caravane à travers la montagne.
Voilà, un commerce très actif parce que le Bhoutan et le Tibet central sont absolument complémentaires. L'un possède le riz, a du riz, du papier, des arbres pour faire le papier, que n'avait pas le Tibet central.
Là, vous parlez du Bhoutan, oui.
Oui, que n'avait pas le Tibet central. En revanche, le Tibet central avait des animaux, avait de la laine. Et donc, il y avait des échanges intenses entre les deux pays qui étaient totalement complémentaires.
Et notamment un produit qui était essentiel dans ces échanges, c'était le sel dont manquent les Bhoutanais.
Voilà, alors le sel venait du Tibet et ce sel manquait, il n'y avait pas d'iode dans ce sel. Et donc, ce qui a provoqué, comme chez nous avant dans les Alpes, des problèmes de crétinisme et de nanisme à cause du manque de iode.
Alors, autre chose qui est venue du Tibet il y a très longtemps, et ce qui fait la particularité, avec le Tibet d'ailleurs, la particularité du Bhoutan, c'est la religion, Françoise Pomaret.
Oui, alors la religion, c'est la religion d'État. C'est le bouddhisme tibétain de l'école, alors d'une école particulière qui est l'école des Drukpa Kagyupa.
Il est arrivé quand d'abord le bouddhisme ?
Alors le bouddhisme, selon la tradition bhoutanaise, est arrivé au 8e siècle après Jésus-Christ. Mais il s'est vraiment installé autour du 11e siècle. Et il y a eu différentes écoles, comme au Tibet, différentes écoles religieuses, mais deux sont restées extrêmement importantes. Celle qui est devenue l'école officielle, c'est-à-dire les Drukpa Kagyupa, et l'autre qui est l'école des Nyingmapa.
Qu'est-ce qui distingue le bouddhisme des Bhoutanais, de celui des Tibétains, etc. Vous parlez d'un bouddhisme tantrique, alors tout le monde n'est pas censé savoir ce que ça signifie.
Oula. Oui, en effet. Non, il n'y a pas vraiment de différence entre le bouddhisme du Bhoutan et le bouddhisme du Tibet. C'est la même grande appartenance au bouddhisme tantrique. C'est-à-dire, c'est un bouddhisme qui met l'accent sur la transmission orale des textes et des explications orales. Sans explications paramètres, on ne peut pas accéder à ces textes.
La religion d'État, religion pratiquée par pratiquement tout le monde, avec des quantités de moines, de monastères, de monuments qui sont bouddhistes.
Oui, bien sûr. Alors, il y a un certain nombre de monastères. Il y a environ 7000 moines d'État, c'est-à-dire des moines qui sont payés par le gouvernement. Mais il y a également beaucoup de religieux qui sont des religieux, ce qu'on appelle curieusement des religieux laïcs, c'est-à-dire des religieux qui sont mariés et qui ont aussi une ferme. Et donc, qui font à la fois office de prêtre dans les villages et fermier.
Alors, une religion qui est omniprésente, qui est partout, y compris dans les fêtes.
Les cérémonies, les festivals, que l'on trouve tout au long de l'année, d'ailleurs, du temps,
sont à la fois religieux et profanes. Ils sont presque la plupart du temps organisés dans un lieu religieux, devant un grand monastère ou un petit, d'ailleurs aussi c'est possible, et les gens se retrouvent là, tous réunis en famille. D'ailleurs, ce qui frappe le plus quand on est au Bhoutan, c'est cette atmosphère médiévale, parce qu'on a un peu l'impression, quand on assiste à un de ces festivals, d'être face à un mystère du Moyen-Âge. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des danses absolument extraordinaires, empreintes de symboles religieux, ésotériques très profonds, qu'on a d'ailleurs du mal à percevoir, qui durent des heures, il y a une concentration énorme de la part des moines, des danseurs, mais aussi de la population. Et puis en même temps, cette population mange, pique-nique au milieu des moines, les enfants courent, jouent, et c'est étonnant.
Vous connaissez sûrement, puisque vous vivez là-bas depuis 25 ans, François Stomaré, et je crois que vous connaissez aussi ce que l'on vient d'entendre.
Oui, c'est un chant religieux chanté par le lama bhoutanais, un lama bhoutanais qui vit en France et qui s'appelle Lama Djourmé.
Alors la religion, elle est partout, y compris pendant plusieurs siècles, je crois pendant 3 siècles, elle est au pouvoir. Le Bhoutan a été une théocratie pendant 3 siècles.
Voilà, le Bhoutan est devenu l'État bhoutanais en tant que tel que nous le connaissons aujourd'hui, grâce à un religieux qui est arrivé du Tibet en 1616 et qui a constitué cet État et qui en a fait une théocratie. Donc la majorité de l'administration était tenue par des moines. Et la religion était donc partie intégrante de l'État jusqu'en 1907.
Ah oui. Et après quoi c'est devenu, on y reviendra, une monarchie. Le Tibet, les relations avec le Tibet n'ont pas toujours été bonnes. Le Bhoutan est peut-être un pays très pacifique, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui. Mais en revanche, il a été en permanence en guerre, et notamment, enfin pendant très longtemps, contre le Tibet, qui avait des ambitions au Bhoutan.
Bien sûr, la relation avec le Tibet sont des relations passionnées. Ce sont deux amants. Ils s'adorent, et en même temps, parce que les Tibétains, à un certain moment, avaient des vues impérialistes, je dirais, sur le Bhoutan, les Bhoutanais ont dû se défendre contre des attaques des Tibétains pendant toute la fin du XVIIe siècle et une partie du XVIIIe siècle.
Comment se fait-il, là on parle du Tibet, mais c'est valable aussi plus tard pour la Chine, pour l'Inde, comment se fait-il que ce tout petit pays, qui est entouré quand même par des puissances, par des pays extrêmement peuplés, puisse si bien se défendre? Vous évoquez bien sûr le relief, vous évoquez aussi le fait, François Pomaré, que c'était des soldats assez redoutables et redoutés grâce à leurs arcs.
Voilà, alors d'abord il faut penser que le pays, ce sont des gorges. Donc c'est un pays parfait pour la guérilla, dans lequel les grandes, on ne peut pas se déployer avec des grandes armées ou des grands bataillons. Les arcs, c'est très commode, on se met derrière un rocher, au coin d'une gorge, et on attaque l'armée qui passe. Et les Anglais, au XIXe siècle, en ont fait les frais pendant la guerre d'Édouard, puisque le général de l'armée anglaise a dit « Les Bhoutanais sont des gens étonnants, ils font plus de dégâts avec leurs arcs que nous avec tous nos fusils ».
C'est encore un sport national.
C'est le sport national, oui, c'est un sport national.
Il est pratiqué, on le voit dans beaucoup de photos de votre livre. Hein, les Bhoutanais le font encore. Alors, vous évoquiez les Anglais aussi, François Pomaré, parce que ça, c'est une autre menace qui se profile à partir du 19e siècle, et même avant, je crois, un petit peu. En tout cas, déjà, la présence des Anglais en Inde, évidemment, au sud du Bhoutan, fait que ça les intéresse. C'est quoi la guerre des Douars dont vous nous avez parlé?
Alors, la guerre des Douars,
c'est au milieu du 19e siècle,
oui, 1864-1865, elle n'a pas duré très longtemps, à la suite d'un certain nombre d'escarmouches entre les Bhoutanais et les Anglais, qui étaient donc sur leur frontière sud, puisqu'ils tenaient l'Inde. Les Anglais ont décidé que vraiment ces gens des montagnes, c'était absolument impossible, et comment ça se fait que le Bhoutan n'était pas sous leurs bottes, et ils ont décidé de l'envahir.
Les Douars, il faut rappeler, je crois que c'est les 18 portes, c'est ça?
Ça veut dire les portes, c'est-à-dire ce sont les ouvertures de l'Himalaya sur la plaine indienne. Mmh. Ils sont 18 ouvertures en Assam et au Bengale. Et donc, les Anglais ont emmené des troupes et ont voulu rentrer au Bhoutan par ces portes. Et c'est à ce moment-là que les archers les attendaient.
Décidément, c'est étonnant. Les Anglais parviennent à conquérir l'Inde et puis sont arrêtés devant ce petit timbre-poste minuscule qu'est le Bhoutan. C'est assez étonnant. Il y a un fort sentiment national, à l'évidence, au Bhoutan, y compris aujourd'hui.
National et nationaliste.
Alors, avec les Anglais, avec cette guerre des Douars, après cette guerre des Douars, les rapports se sont améliorés avec les Anglais, et c'est à la fin, je crois, c'est à ce moment-là qu'apparaît que la théocratie devient une monarchie, ça devient un royaume. D'ailleurs, je crois que c'est le seul royaume bouddhiste du monde.
Non, ce n'est pas le seul royaume, parce que la Thaïlande est aussi un royaume bouddhiste, mais c'est le seul royaume où le bouddhisme tibétain est la religion d'État. Et oui, en effet, après la théocratie, nous passons à la monarchie. Et le père du premier roi était un homme extraordinaire, et son fils, donc le premier roi, était adoré des Anglais, qui lui trouvait un air tout à fait français et qu'il avait surnommé Alphonse.
Ah oui. Alors c'est en 1907, hein, l'apparition. C'est 1907. C'est très tardif, 1907. L'apparition de la monarchie. Cela dit, l'Église reste présente. Il n'y a pas eu séparation de l'Église et de l'État.
Absolument. Et il n'y a toujours pas séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est très important.
Alors c'est un pays quand même, bon, la monarchie au début du 20e siècle, c'est-à-dire au moment où elle commence à disparaître dans le reste du monde, c'est un pays qui a la réputation d'être très en retard, d'être un pays médiéval. Cette exploratrice qui était Madame Williamson, qui était plutôt une femme, je crois, d'officier anglais, Madame Williamson, qu'on a entendue en 1933, dit on est encore au Moyen-Âge au Bhoutan.
Oui.
Enfin, on l'était en tout cas à cette époque-là.
Disons que la société fonctionne beaucoup sur des bases féodales, quelle que soit la signification qu'on veuille donner à féodal. Et ce sont des relations très privilégiées entre des gens qui possèdent quelque chose et des gens qui possèdent un petit peu moins quelque chose, et des relations de service. Alors oui, il y avait une relation et une société relativement féodale. Mais cette société est en train d'éclater complètement depuis une quinzaine d'années.
On y reviendra, mais elle est restée longtemps. Même aujourd'hui d'ailleurs encore, un pays essentiellement rural. Je crois que 75% aujourd'hui des Bhoutanais vivent de l'agriculture.
Oui, mais ils sont propriétaires de leurs terres. En très grande majorité.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non, il y a eu répartition des terres par le troisième roi.
Alors justement, c'est un peu grâce à ce troisième roi que le Bhoutan commence à partir des années 1950 à sortir progressivement de ce Moyen-Âge,
à
s'ouvrir au progrès, et au point d'ailleurs d'entrer exceptionnellement dans l'actualité le 25 avril 1999, France Inter, Denis Astagnaud.
Au Bhoutan, ce petit royaume enclavé entre l'Inde et la Chine, la télévision va être autorisée. Le roi du Bhoutan vient d'autoriser la première émission le 2 juin prochain pour le 25e anniversaire de son règne. Jusqu'ici, ce pays de haut plateau et de 600 000 habitants essayait de préserver son héritage bouddhiste et son écologie en contrôlant strictement ses frontières et le flux des touristes. La télévision y était interdite. L'Assemblée nationale a décidé de lever cette interdiction pour contribuer, dit-elle, à la construction du pays.
La télé au Bhoutan, en 1999, dites-moi, c'est un peu tard, Françoise Pomaret, quand même, non ?
Oui, mais en fait, il n'y avait pas de télévision nationale. Et il est certain que dans ce pays où il y avait tout à faire, la télévision n'était pas une priorité. La priorité, c'était les routes, les communications, le téléphone, etc.
Oui, alors ça se passe à partir des années 50.
61, c'est vraiment le début du développement de l'infrastructure routière et des communications au Bhoutan.
C'était la priorité, les routes.
La priorité, absolument, pour désenclaver toutes les vallées.
Avec une aide importante, je crois, qui est venue de l'Inde.
Oui.
Alors, il faut rappeler quand même, il faut évoquer les rapports avec l'Inde. L'Inde indépendante en 1947, qui s'intéresse aussi au Bhoutan, on peut s'en douter, et qui entretient plutôt de bons rapports avec les Bhoutanais.
Alors, d'excellents rapports qui datent de l'Angleterre, bien sûr. Donc, ils ont repris les traités que les Bhoutanais avaient avec les Anglais. Et l'Inde n'a jamais considéré le Bhoutan comme un pays qui était dépendant de l'Inde. En revanche, ils ont toujours gardé une énorme amitié et pendant un certain temps, ils ont même régi une partie de la politique étrangère. Mais ça, c'est terminé maintenant.
Politique étrangère peut-être indépendante, un peu plus indépendante, et ça aussi c'est un signe d'ouverture à l'extérieur, depuis que le Bhoutan, ça c'est un grand événement dans son histoire en tout cas, est entré à l'ONU, je crois, en 1971.
Ah oui, ça a été vraiment un événement qui a mis le Bhoutan sur la carte mondiale. Et les Bhoutanais ont un grand respect pour l'ONU.
C'est assez curieux d'ailleurs, parce que le Bhoutan donc est un État souverain, totalement indépendant. Est-ce que l'Inde n'exerce pas encore sa tutelle un peu sur le Bhoutan?
Pas du point de vue politique, mais économiquement, forcément, comme le pays est enclavé, tout l'approvisionnement, en particulier en pétrole, essence, etc., vient de l'Inde. Donc forcément, il y a...
Est-ce que la volonté d'entretenir de bons rapports avec l'Inde ne vient pas du fait que, forcément, le Bhoutan, on s'en doute, est très inquiet aussi de la présence de la Chine, surtout depuis l'avènement du communisme, et depuis, surtout, l'occupation du Tibet par la Chine. Le Bhoutan pouvait évidemment craindre pour sa propre existence.
Vous avez raison, et c'est pour ça qu'en 1961, quelques années après l'invasion du Tibet par la Chine, le Bhoutan s'est tourné vers l'Inde pour son plan de développement. Mais actuellement, le Bhoutan n'a rien à craindre de la Chine et il entretient de bonnes relations. Ce ne sont pas des relations diplomatiques, mais de bonnes relations avec la Chine.
C'est curieux aussi, Françoise Pomaré, parce que en vous lisant, vous dites le Bhoutan compte 700 000 habitants, je crois.
Oui.
Et bon, je me suis renseigné ailleurs, j'essaie toujours de recouper mes informations.
Bien sûr.
Je vois ailleurs 2 millions d'habitants. Alors, quel est le chiffre exact d'abord et comment expliquer cet écart entre 700 000 et 2 millions, c'est-à-dire au fond, ça passe du simple au triple, selon les chiffres.
D'accord. Alors d'abord, un scoop pour vous, c'est qu'il y a eu un recensement cette année. Et enfin, à la fin de cette année, on va avoir la population exacte du Bhoutan.
D'accord.
Premièrement. Deuxièmement, c'est que lorsque le Bhoutan a voulu se présenter à l'ONU, l'Inde, qui le parrainait, a dit « Écoutez, avec une population aussi petite, vous n'allez pas être pris au sérieux. Donnez donc votre population comme... » entre 1,5 million et 2 millions d'habitants. Et c'est comme ça que les chiffres sont... Ce sont des chiffres totalement fantaisistes.
Alors, lequel est le bon? Le plus proche? Parce qu'il y a aussi un autre problème quand même, Françoise Pomaré. Vous en parlez d'ailleurs. Il y a eu un recensement, le premier, là.
Oui.
Vous évoquez un nouveau recensement, mais le premier, je crois, c'est en 1988. Bon. Et il y a une loi qui a été précédée d'une loi de citoyenneté qui excluait tout étranger, installé après 1958, de la citoyenneté bhoutanaise. Certains même disent que les étrangers qui étaient là depuis plus longtemps, or ça visait une population bien particulière et très importante au Bhoutan, ce sont les Népalais.
Alors voilà, ce sont les Népalais qui se sont établis au Bhoutan au cours du XXe siècle, et il est vrai que cette loi concernant la citoyenneté, c'est une loi du pays, 1958, c'est la date butoir. Si vous pouvez prouver que vous étiez dans le pays avant 1958, vous êtes citoyen bhoutanais. Sinon, il fallait partir. Alors, il y a une grande partie...
C'est de l'épuration ethnique.
Non, absolument pas. C'est pas une épuration ethnique.
Mais c'est...
D'abord, parce qu'il y a 20% de la population quand même qui est restée et qui est népalaise. Actuellement, il y a beaucoup de Népalais au Bhoutan. Il faut pas l'oublier. Il y a au moins 20% de la population qui est népalaise. Ça visait essentiellement les travailleurs immigrés qui s'étaient installés au Bhoutan et qui étaient restés sans papiers. Et qui étaient en grande partie des Népalais, en effet, qui étaient venus avec les projets de développement de l'Inde. Donc, ça visait cette population-là. Et les Népalais, il y a énormément de Népalais au Bhoutan. On dit au moins 20% de la population. Donc, il faut pas tout mélanger. Et lorsqu'il y a eu les problèmes, j'étais moi-même au Bhoutan, il y a énormément de Népalais qui vivaient dans le sud, qui se sont réfugiés dans les vallées centrales. Or, s'il y avait vraiment épuration ethnique, on ne se réfugierait pas exactement dans la gueule du loup.
Je crois que les Népalais se voient interdire un certain nombre de professions, d'administration, enseignement.
Ah, c'est pas vrai. Pas du tout. Ce sont d'excellents commerçants. Alors que les Bhoutanais ne le sont traditionnellement, ne le sont pas, ce sont des agriculteurs. Les Népalais sont d'excellents commerçants. Donc par exemple à l'université, ce sont toujours les Népalais, les gens d'origine népalaise, qui ont les meilleurs diplômes en économie.
Il y a une phrase que je trouve extraordinaire, qui a été, je crois, inventée par l'actuel, le dernier et actuel roi du Bhoutan, le bonheur national brut. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle idée, je trouve.
Oui, c'est une jolie idée. Le bonheur national brut repose sur 4 piliers qui sont la bonne gouvernance, la protection des valeurs traditionnelles, la protection de l'environnement et le développement économique. Mais le développement économique n'est qu'un des 4 piliers du bonheur national brut.
Une constitution, quand vous parlez de bonne gouvernance, si je puis dire, c'est une constitution qui doit sortir en ce moment.
Alors, il y a plusieurs choses. Là, il y a la constitution qui est en préparation et qui est d'ailleurs sur laquelle qu'on peut commenter en direct sur Internet. Elle est sur Internet. Et puis, il y a également la décentralisation des fonctions et des responsabilités au niveau local, au niveau des paysans.
Et une grande importance attachée à l'environnement, vous le soulignez beaucoup, ce qui permet à ce pays d'être aussi beau qu'on le voit dans votre livre, dont je rappelle le titre, Françoise Pomaret, Le Bhoutan au plus secret de l'Himalaya, qui vient d'être publié aux éditions Gallimard en collection Découverte. Vous avez également écrit, je crois, un guide touristique consacré à ce pays et publié chez Olizane. À lire également Bhoutan, voyage au pays de Bouddha, de Michel Pithiaud, est paru aux presses de la Renaissance. Et enfin, apparaître demain un numéro du Figaro Magazine avec un dossier important sur le Bhoutan, signé par Anne-Marie Gruet. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission L'Échappée Belle d'Evelyne Gayou, diffusée sur France Culture le 28 octobre 1994. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Le Bhoutan. Merci à Émilie Couette, Claire Tesser, Camille Pouchet-Laguier et Amélie Briand-Lejeune. Et à notre Sherpa, le Sherpa 2000 ans d'histoire, la réalisatrice Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, au lendemain des élections législatives allemandes, les années Schröder. Mardi, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, une légende du cinéma, Greta Garbo. Mercredi, le premier des empereurs romains, Auguste. Jeudi, la vérité sur le Moyen-Âge. Enfin, vendredi, un homme qui a marqué l'histoire de la presse française et de la politique, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald, Musique Express.
Merci Patrice Gélinet, à lundi.